Charlot. Charlot, c'était un bouc, une bonne baille de bouc, avec une barbe comme celle d'Olivier, sacristain de Saint-Hilaire, et puis une paire de cornes, un modèle Portocella qui avait une affliction dans leur ménage. Un bouc qui était bépropre, bépeigné, pour l'odeur, c'était une autre affaire. Ernestine l'avait pourtant mis dans un tête-à-part, à 15 mètres au moins de la bourrine, où couchait le monde. Mais elle était habituée, elle était toute seule, pour la gêner pas. À ce sujet, le curé de Notre-Dame de Riez m'a jamais dit ce qu'il pensait de cette ordure quand la bonne femme allait à confesse. Il est vrai qu'elle prenait tant de prises de tabac. Donc, Ernestine, quand elle s'était défaite de sa petite borderie et qu'elle était venue se réfugier dans un cru de maison sur le bord d'un marais, avait gardé cette bête. Faut dire que Notre-Dame de Riez n'est pas un pays de chèvres. Pas comme dans la gâtine de la Psy, ou même les alentours de Mel. Mais on avait deux chèvres tout de même, cuxine par-ci, par-là, qu'est-ce l'aurions fait, qu'est pour le monde, si n'avions pas eu de bouc sous la main. Tout le monde connaissait Charlot. Il faisait vrai besnafaire auprès de toutes les chèvres qui avaient besoin de lit. Vraie bonne clientèle. Puis il aidait à vivre Ernestine, qui avait guère ramassé d'argent dans sa petite borderie, puis elle avait point de sécurité sociale. Oh, elle ne demandait pas bien cher pour les services de son bouc. Les champs, ils donnaient ce qu'ils voulaient. Mais, si petit. Et puis cette bête ne revenait pas bien cher. A trouvé sa vivature dans les buissons et sur le bord d'eau charreau. Enfin, le bouc tenait compagnie à la bonne femme. Tous les deux n'étions pas malheureux. Ces voisines qui passaient leur temps à tricoter par les mal logés et puis pour les prisonniers, la blague d'Ambé, pour Charlot, elle le prenait vrai, B. Et de temps en temps, elle lui payait une tasse de vrai café. Et encore que pauvre Charlot qui vous paye cette tasse. Un jour d'hiver, quand j'étais à Pierre Fendre, Ernestine a bévu qu'on ne marchait pas chez Charlot. Restait toujours couché, l'avait de goût pour rien. Ernestine pensait, après tout le travail qu'il a eu à faire depuis le mois d'octobre, c'est pas étonnant. Oui, il fait mes 12 ans. Maintenant, Clébé tranquille, on va marcher. Là, le bouc à longtemps qui toussait, une toux qui n'en finissait pas. Sa bête était bien malade. Et on était grand temps de le soigner. Une de ses voisines, dans l'embrasure de la porte, qui crie: « N'entendez pas, Charlot, le tous à fendre l'homme. pour faire venir le vétérinaire de Saint-Gilles. Ils sont tous prêts à vous aider pour le prix. C'est une demande trop chère. Allez, mion Ernestine. Puis allez, mion aussi Charlot. Bernadette, une voisine qui avait une bicyclette, dit, il va aller à Saint-Gilles chercher le vétérinaire. Il veut pas de cet homme qui a laissé mourir mon boricot quand il était dans ma borderie. Allez me chercher, monsieur, il dit, comme qui est. C'est une empirique. Une empirique qui n'a pas berne de diplôme, mais moins qu'un vétérinaire, puis qui réussit même pour les bêtes. Entendu. Je m'en vais comme qui est. Chercher monsieur Idier. Bout d'une heure, la Bernadette qui réveille. Monsieur Idier était la gueule du cerf, par un bel âge. Mais il ne devrait pas en avoir pour trop longtemps. Sa femme m'a dit qu'elle allait l'envoyer tout de suite. De fait, l'entendant dans le lointain, une moto qui faisait un bruit pire qu'une batteuse. Chez la pout-pout de M. Hidier, la pout-pout veut dire chez nous une moto. Chez la pout-pout de M. Hidier, il est à Villeneuve. Dans 10 minutes, il sera là. L'une après l'autre, les voisines arrivent trouver Ernestine, arrivant par la cérémonie. De temps en temps, en entendant Charlot tousser, d'une façon sèche, mauvaise, les femmes branlant la tête, pourvu qu'on ne soit pas trop tard. Suidier, un homme qui avait 70 ans, arrive, harnaché comme un militaire en campagne. La vie est une vieille capote bleue qu'il avait rapportée de la guerre 14. Et pour empêcher les pans de sa capote de s'embrainer dans les rayons de sa moto, l'avait mis dans un jartel à sa femme autour de ses mollets. Pour aller dans les villages, le prenait toujours sa moto. En hiver, les chemins étaient si vilains. Et puis, on était moins gourmand d'essence que son auto. Cette sacrée essence qui était si rare d'autant d'occupation. Bonjour, mes amis. Les quatre femmes avions fait un pot de toilette, la s'étant rangée devant la bourrine à Ernestine, les mains sur le ventre. Bonjour, monsieur Idier, car l'empirique qui était comme qui est, tout le monde l'appelait monsieur Idier, comme on disait monsieur le curé, monsieur l'instituteur. Personne, même ses anciens copains, lui aurions dit Jean. Où est-elle, votre bête? Ernestine le mène au toit de Charlot. Ah, la consultation est pas longue. Charlot s'est tripoté, se contente de tousser. Elle a de la fièvre. Et bien mal. Revenu à la bourrine, M. Idier écrit son ordonnance. Les soucieux. La dorite sur le front. Les bémols, Charlot. Sûrement. Il n'est pas en bon état. Mais vous voyez bien qu'il gèle. C'est du chaud qu'il lui faut. À cette condition, pourra s'en tirer. autrement il périra sûrement. Ernestine prend une décision héroïque. Au yofo d'Ocho, eh bien, il va le mettre dans mon lait. Oh, vous n'y pensez pas. Et l'odeur. Ah, faudrait bien qu'elle s'habitue. Ah, ces maladies. Auguste et Jeanne faisaient un couple d'une soixantaine d'années. Mariés depuis 25 ans, ils avaient hérité d'une belle maison sur le bord de la route. 2 ou 3 hectares autour, avec des arbres, des fleurs, un bout de jardin. Enfin, ce qu'il faut pour s'occuper sans trop de fatigue. Le père, en mourant, avait laissé une belle poignée d'argent. Et tous les deux n'avaient pas besoin de travailler. D'ailleurs, il faut bien avouer qu'Auguste n'était pas trop ambitieux. Et le fait de ne pas avoir d'enfant n'avait pas aidé à se jeter dans le travail. À quoi bon gêner, puisque le gouvernement prendra tout. Et c'était pas sa femme qui aurait pu lui donner de l'énergie. C'est vrai que la pauvre femme avait 1000 misères. Depuis qu'Auguste la connaissait, elle avait eu toutes les maladies possibles, et probablement quelques autres encore. 3 ou 4 clientes comme elle, et la vie d'un médecin serait assurée, soufflait à Auguste son père, qui ne pouvait pas la sentir. Auguste, va me chercher le médecin. Lequel veux-tu? Car la malheureuse avait essayé tous les médecins des alentours. Potel, Guinement, Girard et combien d'autres. Jusqu'au médecin de Couex qu'elle avait fait demander. Un jour même, elle avait fait venir celui d'Esnay. Et quand elle a entendu le prix que le médecin demandait pour le kilométrage, elle a eu peur que son mari le prenne trop mal. Dis donc, à quoi de vie? Il y en a un qui vient de s'installer. Celui-là, il tombera peut-être dans ma maladie. Auguste s'en va donc chercher le docteur Geffard, un jeune qui avait l'air bien aimable et qui n'avait pas encore beaucoup de clients. Le jeune toubib voulait connaître sa malade. Il lui pose un tas de questions. La Jeanne se met à lui raconter sa vie, toutes ses misères. Il y en a eu pour un moment, si bien que la nuit était presque tombée lorsque l'auscultation a été finie. Jeanne était si contente d'avoir trouvé quelqu'un qui l'écoutait. Enfin. Le médecin, avant de repartir, avait fait une grande ordonnance avec un tas de remèdes à prendre chez le pharmacien. Auguste, qui avait assisté à la cérémonie, était sur sa chaise depuis 2 heures, a pris tout de suite, bien vite, le papier, et il s'en va en vitesse chez M. Gaudremont, le pharmacien de Croix-de-Vie. La pharmacie était bien fermée, mais quand M. Gaudremeau a reconnu Auguste, il a ouvert sa porte. Le client était suffisamment important pour qu'il fasse une exception. À ce moment-là, les pharmaciens faisaient beaucoup de préparations. Et ça prenait du temps. Quand il a eu fini, il explique à Auguste la façon de se servir de chaque médicament. La liste était longue, des cachets, à prendre midi et soir avec de l'eau, suppositoire à mettre dans l'anus avant de se coucher, potion à boire le matin à jeun. Pressé le pharmacien, pressé aussi Auguste, qui avait grand faim. Il paye. Puis s'en va en bicyclette jusqu'au moulin de la Matte en Saint-Hilaire. Jeanne l'attendait avec une belle impatience. J'ai eu de la peine à déchiffrer l'écriture du médecin. Heureusement, celle du père Gaudremeau leur a donné moins de mal. Jeanne était là, à noter fidèlement sur la boîte ou sur la bouteille, les heures, les dates, la quantité. Ils arrivent à la boîte de suppositoire, mettre dans l'anus le soir avant de se coucher. Dis donc, Auguste, qu'est-ce que c'est que ça, l'anus? Je crois bien qu'on n'a pas... n'a pas de ça à la maison. Faut pourtant obéir au médecin. Va demander à M. Gaudremeau. Oh non, il n'irait pas. Si on demandait à Amélie, nous tirer de peine, elle est tellement de service. Amélie était une voisine, une vieille fille, toujours prête à dépanner les gens dans la peine. Mais elle allait se coucher. Il était déjà tard dans la nuit. Figurez-vous que le médecin a prescrit à ma femme de mettre un remède dans l'anus. On n'a pas de ça à la maison. On a pensé à vous. Il crabait qui nous en avons servi pour m'en défimper. Mais vous réto que nous avons calé. Il va chercher. Et dedans, Auguste. Les deux pauvres malheureux ont fouillé partout, dans les armoires, derrière les piles de draps, rien. Mélie a cherché partout, dit Auguste. Elle n'a pas trouvé d'anus. Jeanne se met à pleurer. Qu'est-ce qu'on va devenir? Je sens que si ça me manque, je ne pourrai jamais me rétablir. Il m'en faut absolument un. Je dois aller à la pharmacie. Demandez à M. Gaudremeau de t'en vendre un. Pauvre Auguste, il n'était pas chaud pour retourner à Croix-de-Vie chercher l'engin. Mais il était habitué à satisfaire les caprices de sa femme. Croix-de-Vie était tout endormi. Sonne, ressonne à la pharmacie. Père Gaudremeau, quoique il s'agit d'un remède d'urgence, il ouvre sa fenêtre, demande « Qu'est-ce qu'il y a ?»« C'est moi, Auguste, du moulin de la Matte. On n'a jamais pu trouver d'anus. Pourriez-vous... »« Ah, je n'en ai qu'un. »« Il ne le prête pas. » Auguste s'en va sans insister. A deviné, vous l'avez dit une bêtise là-dessous. Père Gautremaud, en retournant son lit, s'est dit encore un client que je ne verrai pas. Or, 8 jours après, voilà Auguste qui revient à la pharmacie pour une grosse ordonnance, toujours pour sa femme. Le pharmacien s'enquiert. Alors, ces suppositoires, m'en parlez pas. J'ai réussi à lui faire prendre en lui mélangeant le remède avec un peu de lait chaud. Elle l'a bu, mais au respect que je vous dois, elle l'aurait mis dans son jus. Elle aurait été pareille. La bassine. Quand Séraphin Baudet revint du régiment et qu'il songea à se marier avec Gabrielle, il a bien compris que sa place n'était plus à la maison. Déjà au Soulandeau, la bourrine était pleine et c'est pas les quelques hectares autour de la maison avec 3 ou 4 vaches qui pouvaient faire vivre convenablement un couple de plus, même en forçant sur le maraîchage. D'autant que Gabriel l'avait prévenu. Avec ta mère, à Grenade comme elle est, m'entendrai jamais. Faut qu'on quitte Soulan. Il y a bien d'autres qui le font et ils n'ont pas à s'en plaindre. Séraphin se faisait tirer l'oreille. Bien sûr, Gabriel avait raison, comme toujours, mais il avait ses copains, son équipe de football, surtout il avait son équipe de JAC, dont il était président, et qui marchait bien avec son vicaire. Et vicaire, qui avait bien confiance en lui, se reposait sur lui pas mal de choses, ne l'encourageait pas à s'en aller loin du pays. Enfin, l'amour fut le plus fort. Et après le mariage, le couple, à force de chercher, dénicha une hutte du côté de Nalier. Une hutte, c'est une grande ferme au milieu des marais, entourée de pâturages. Au lieu d'un village où tout le monde est touche à touche, où tout le monde se connaît, on est là, isolé, tout seul. Pas de potée ni de bourricots comme à Soulan, mais des vaches plus nombreuses que les poules à la belle-mère et qu'il fallait tirer tous les jours. Encore une autre suggestion, qu'il devient bientôt un esclavage. Au début, ça marchait pas. Nos deux jeunes étaient complètement désemparés, déplantés. Toujours est-il qu'au bout de peu de mois, Séraphin et Gabriel, qui étaient si fervents à Soulan, firent comme tous les habitants des huttes voisines. Elles passèrent les messes du dimanche, les grandes fêtes, je voyais encore de temps en temps à l'église, puis plus rien. D'autant que la famille s'agrandit. Deux papotes, coup sur coup, firent leur apparition et ajoutèrent, bien sûr, au tracas des parents. Les affaires allaient plutôt bien. Il n'y avait jamais eu autant d'argent à la maison. Et Séraphin a même acheté une petite Citroën d'occasion. Les gens de Soulan, où Séraphin présenta sa bagnole, n'en revenaient pas. Les parents devinaient bien qu'il y avait une contrepartie moins brillante, mais ils ne disaient rien pour ne pas contrarier leurs enfants. Ah, ça, s'ils vivaient un peu plus à l'aise, ils l'avaient bien mérité. Travaillant comme des bêtes, et bien plus que des bêtes, le dimanche, comme les autres jours, il n'y avait qu'une chose qui, à leurs yeux, était sacrée. C'était la foire de Luçon. Séraphin, qui allait régulièrement, tous les mois, n'aurait jamais manqué sa foire pour un boulet de canon. Le ménage s'entendait bien, les affaires marchaient bien, les enfants à l'école donnaient satisfaction, et même ils ont vu venir, sans trop crier, un petit retardataire. Oh, ces foires de Luçon, Germaine les craignait comme le feu. Ça n'arrangeait pas Séraphin, ni son portefeuille non plus. Et Séraphin savait bien que chaque soir de foire, il allait manger de la soupe à la grimace. Une fois, le gars était rentré plus tard, et Germaine a bien reconnu que son chargement était plus conséquent que d'habitude. En entrant dans l'ouche, l'auto n'avait-il pas arraché un gros piquet avant d'aller casser son phare gauche sur la margelle du puits? Séraphin était d'une humeur charmante. Il chantait, il riait, tout seul. Germaine, dans son écurie, sur son trépied à tirer les vaches, se mit à lui vomir les insultes les plus mauvaises contre son homme. Séraphin reçut la bordée avec joie. On aurait dit qu'il n'entendait que ça. Puis, galamment, il tendit un objet à sa femme. « Regarde ce qui t'est apporté. » La curiosité fut plus forte. D'autant plus que Séraphin ne garde pas sa femme en fait cadeau. « Oh ! Une bassine, une belle bassine en cuivre. T'as pensé à moi, d'une qui te bise. » Voilà nos deux bons mondes réconciliés pour un moment. Après les pluies d'automne qui succédaient à une sécheresse inquiétante, voici de nouveau la chaleur. Et le matin, en allant conduire ses bêtes au pré, Séraphin vit une multitude de champignons. Il n'avait pas de panier. Et Gabriel ne lui faisait jamais de champignons, de peur de l'empoisonner. Il prit son mouchoir à carreaux, un ces grands mouchoirs tabatou qui tenait bien un demi-double, le noua aux quatre coins et rentra à la hutte avec une grande friture. Germaine ne voulut rien savoir pour préparer les champignons. Il a fallu que Séraphin se fâche, qu'il nettoie les potirons et menace de les porter cuire chez Milly, la voisine, à 1 kilomètre. Enfin, Germaine a cédé. Elle a même dit à son mari, tant qu'à faire de mourir, au moins ils mourront ensemble. Elle ne croyait pas si bien dire. Au lac de la nuit, ils furent pris de coliques épouvantables, empoisonnés. La dernière heure est arrivée. Pas moyen de téléphoner et pas de téléphone. Pas moyen d'aller appeler le médecin. Il y avait pourtant une voiture toute neuve rentrée à la maison. Mais Séraphin n'était pas encore de conduire. Pas moyen d'appeler au secours. Ils allaient tous deux périr comme deux malheureux. Heureusement encore que les deux petits innocents n'avaient pas mangé de ces maudits champignons. Quant au dernier qui reposait dans le berceau, il dormait à poing fermé, le pauvre petit. Alors, au moment de partir pour l'autre monde, ils pensaient à leur vie de misère. Ils se préparèrent, comme des chrétiens qui se souviennent de celui qu'ils ont abandonné, mais qui est le Père, qui attend sur le pas de sa porte ses enfants perdus. On va se confesser, sérieusement, comme on faisait autrefois, dit Séraphin. Qui compte, je le sais bien, c'est le regret. Et le bon Dieu nous fera miséricorde. D'accord, dit Gabriel. Commence. Et dans leur lit, Séraphin commençait à prier, comme autrefois, comme tout le temps. On fait à Dieu, etc. Mon Père, je m'accuse, etc. Comme dans le confessionnal de Soulan. Manquer la messe. J'ai saoulé, j'ai juré, etc. Un arrêt. Gabriel sent qu'il y a autre chose. C'est-il tout ? Non. Cette bassine que je t'ai donnée, je ne l'ai pas achetée. Je l'ai volée chez Amelino. Mais si je reviens en ce monde, je te promets que je la retournerai. À toi, Esther. Gabriel, à son tour, dit ses pauvres misères. manquer mes prières, manquer la messe. J'ai juré, je suis fâché avec mon homme. C'était tout. Pendant qu'on y est, il faut tout dire. Non. Écoute, c'est la fin. Quand tu retourneras chez Amelino pour lui rendre sa bassine, le petit qui est dans le berceau, mets-le dedans. Il vient de chez lui. Un sou est un sou. Supposez qu'aujourd'hui, un paroissien sorte de la chapelle de l'hôpital, vienne entendre un sermon du père Blaiseau sur l'éminente dignité des pauvres, ou plutôt sur nos devoirs à l'égard de ceux qui sont les plus démunis. Il a réfléchi un peu, pris de bonnes résolutions. Justement, à la porte de la chapelle, un homme, jeune encore, est planté sur le passage. Il fait la manche. Le paroissien en question fouille dans sa poche, tape à son portefeuille, et il trouve une pièce de 1 franc. Il la donne et il se sauve. D'abord parce qu'il a peur que l'autre ne lui coure après pour lui dire « vous vous foutez de moi ». Et aussi parce que dans le fond de son cœur, il a honte de donner si peu. Et pas de sa faute. C'est tout ce qu'il a. Les temps sont bien changés. À preuve, l'histoire que voici, et qui, à la différence de toutes celles ou à peu près que j'ai racontées, ils sont plus ou moins arrangés, supposés, ou attribués à des personnages plus ou moins fictifs. Celle-ci relate la plus stricte vérité. Et c'est moi qui suis mis en question. Ça se passait en 1917 ou 1918. Enfin, c'était l'hiver, faisait un froid de canard. Je m'en souviens. Papa est à la guerre et une petite sœur, Marthe, vient de naître au mois d'octobre, qui pleurait beaucoup et que j'avais la charge de bercer. Chose que je ne faisais pas toujours de bon gré, je l'avoue. Paul, va chez ma reine pour chercher une livre de beurre et tu lui demanderas une potée de choux. Elle me donne 16 sous que j'ai noués dans mon mouchoir. Et voilà parti, à la Favrie, tout proche de Saint-Hilaire, tout proche du bourg. J'aimais bien aller chez celle que maman, comme ses deux sœurs, appelait marraine. C'était sa sœur aînée, c'était la bonté même. Chaque fois que j'allais chez elle à la Favrie, j'avais droit à une bonne tartine de crème. Le gosse de 6 ans que j'étais était très sensible aux attentions de Tante Louise. Ce pain de ménage dont elle coupait une tranche et me tartinait abondamment de cette bonne crème qu'elle ramassait sur les pots de lait. Ce lait des vaches partenaires, qui faisait la gloire du fameux beurre charentais. La crème qui faisait bien, pas loin d'un centimètre d'épaisseur. Pendant que je mange goulûment ma tartine, tante prépare sa livre de beurre, bien lavée, bien tassée dans son moule à beurre. Il me remet tout ça dans un impeccable papier sulfurisé qui faisait toujours mon admiration. Je lui donne mes 16 sous, le prix ordinaire, ce que m'avait donné maman. Ah, tu diras à ta mère que ce n'est plus 16 sous, c'est 18 sous. Je n'ai que 16 sous. Ça ne fait rien. Ta maman me donnera les 2 sous qui restent dimanche prochain, quand j'irai prendre le café chez elle, après la messe. Je retourne à la maison. Maman, tante a dit que ce n'était plus 16 sous, mais 18 sous. 18 sous de livre de beurre. Retourne à la fabrique et redonne à tante sa livre de beurre. Rapport. Jamais je n'avais vu maman si en colère. Et je n'étais pas fier de faire cette commission. Je retourne à la faverie, la livre de beurre. Tante me redonne les 16 sous. J'ai compris au visage de maman, au visage de tante Louise, que c'était comme une rupture. C'en était une, en effet, qui a duré 3 ans. Maman et tante se sont réconciliées à Lourdes, devant la Vierge de la Grotte, en pleurant et en riant de leur bêtise. Crois-tu qu'on a été bêtes tout de même? Pour 2 sous. C'est vrai qu'à la Joumarère, il n'avait jamais été question de salle de bain. Quant à Germain, est arrivé ce qui devait arriver. Il s'est consolé dans le pinard, en se cachant au début. Mais un bien jour, Marie a découvert dans un fourré tout un tas de bouteilles vides, bien sûr, et que Germain avait vidé tout seul. Et donc, il ne s'avait jamais dérangé avant. Puis quelque temps, Marie avait bien remarqué que le Germain sentait un peu le vin, comme lorsque le revenait une foire de Chaland. Mais à Jaupoint, fut l'occasion un petit orage tel qu'on en a à la fin d'une journée pesante d'été. C'était la première fois qu'on avait une si grande explication et qu'on vidait une querelle qui couvait depuis 12 années. Il aurait mieux valu, évidemment, quand l'avion quelque chose qui marchait pas, à mettre sur la table le différent. J'arrive dans tous les ménages. Et dans ce couple, qui était le modèle de la paroisse, et puis c'est le curé que vous avez dit, on en vint à se détester. On fait appel au curé de Bois-de-Séné, qui était un homme de paix, puis que tout le monde estimait, le père Jules Girard, la fiche qu'elle a pu.